Je lis dans la version que vous avez actuellement, qui est la plus répandue parmi vous, c'est à dire d'un fond. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les eaux d'Ézéchias, roi de Juda. Vous voyez que nous entrons ici dans une nouvelle partie des proverbes, et ce qui sont toujours des proverbes de Salomon, mais qui ont été recueillis bien des années après le règne de Salomon, sous le règne d'Ézéchias, un descendant lui aussi de David. La gloire de Dieu, c'est de chasser les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les cieux. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « montre ici » que si l'on t'abaisse devant le prince et que Dieu voit. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, il ne fasse que faire. Lorsque ton prochain sera effrayé, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. De peur, en l'apprenant, il ne te souffre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Comme des pommes d'or qui réussissent le d'argent, ainsi est une parole d'après tout. Comme un anneau d'or et une farine d'or fin, ainsi pour une oreille de fil et le sage du réprimant. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un message fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son œil. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme de glorifiant à temps de ses libéralités. Par la longueur à la colère, on flétit un prince, et une langue douce peut briser les os. Si tu trouves du miel, n'en mange que si tu suffis, de peur que tu n'en sois rassasié et qu'il n'y ait pas. Mais rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flétrie, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage en son cœur. Comme une dent cassée et un pied qui s'enfèle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ôter son vêtement dans un jour, quoi, répondre du vinaigre sur du lit, c'est dire de chanson à un cœur apprécié. Ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents qui amassent sa tête, et l'Éternel te récompense. Le vent du nord enfonce la pluie, et la langue mystérieuse, un visage effrayé. Mieux vaut habiter à l'angle d'un froid que de partager la demeure d'une femme curieuse. Comme de l'eau fraîche d'une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle de l'envie à moins. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant lui. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un homme. Comme une ville portée et son miracle, ainsi est l'âme. Il n'est pas maître de l'île. Est-ce que vous voyez beaucoup de difficultés dans ces proverbes? Bien, les comprenez-vous? La première chose que nous pouvons faire quand nous vivons un texte semblable est que nous avons au verset premier cette indication que ces proverbes ont été rassemblés par des hommes de l'entourage d'Ézéchias verset qu'on devrait connaître, qui est Ézéchias. Qui est cet Ézéchias dont l'entourage, dont les hommes, parce que rien ne se fait sans la volonté du roi, puisque j'étais avec le roi, il a donc autorisé, ou il a peut-être mis à cœur à ses conseillers, à ses sages, à ses hommes, de mettre de l'ordre ou de trouver encore des proverbes de Salomon et de les rassembler, de les mettre en ordre pour le bien de la population de son royaume. Ce qui voudrait dire que Ézéchias avait été impressionné par la lecture des proverbes de Salomon. Vous savez, au chapitre 5 du premier livre des rois, il nous était dit au verset 32e que Salomon, chapitre 4, verset 32 du premier livre des rois, avait prononcé 3100 ans et composé 1056. Et qu'il avait parlé un peu sur tout les arbres, depuis le cèdre du Liban à l'isop qui sort de la muraille. Il avait parlé sur les animaux, les oiseaux, les poissons et les reptiles. Donc, dans cette mine que Salomon avait laissée, dans tous ses trésors, les hommes des Ézéchias ont pris des proverbes que nous allons étudier dans les chapitres 25, 26, 27, 26 et 29. Ça fait combien de chapitres ? 5. 5 chapitres dans cette partie du livre des proverbes et qui ont été rassemblés par les hommes des Ézéchias. Alors, vous lisez maintenant au chapitre 18 du deuxième livre des rois. Cet Ézéchias avait eu un père épouvantable. Un homme qui était tombé, quoique roi de Juda, descendant de David, dans tous les péchés et les iniquités les plus grandes, avait pu commettre ce qui s'était éloigné de du Seigneur. Eh bien, ayant un tel père, moi je ne sais pas quel père vous avez eu, mais peut-être que plusieurs se disent, mais nous, on nous demande de suivre l'enseignement de notre père, nous font. Moi, je n'ai pas d'enseignement de mon père. Et si je suivais les enseignements de mon père, ben, je ne serais pas ici. Et je ferais toutes autres choses. Et vous vous sentez un petit peu frustré. Mais voilà un homme éducat qui n'a pas eu de bons enseignements. Il n'a pas eu de bons enseignements de son père. Il n'a eu que de mauvais exemples. Vous savez ce qu'il avait fait pour terminer Achaz? Comme il avait eu des revers dans les guerres par les nations païennes, il s'était tout simplement dit, puisque leurs dieux les ont aidés, eh bien moi je vais faire des hôtels pour ces dieux-là qui leur ont aidé à ces nations à me battre. Puis moi, à mon tour, je leur sacrifierai, je leur en ferai des offrandes à ces dieux qui ont permis à ces nations de me battre. Vous voyez à quel point il en était arrivé. Et non content de dresser en faisant tout la ville de Jérusalem, des hôtels à tous les dieux possibles, à toutes les idoles possibles, qu'est-ce qu'il avait fait de la maison d'Éternel? Il avait fermé les portes, il avait fermé les portes, donc on offrait du sacrifice, on ne suivait plus du tout la loi de Moïse, la porte, les portes de la maison d'Éternel, à ça, ils avaient fait fermer. Ça veut dire qu'on ne rendait plus le culte. Voilà où on en était arrivé à Jérusalem, sous l'influence d'un roi, on ne rendait plus de culte à Dieu, selon les principes que Dieu avait donnés, non seulement à Moïse, mais ensuite à David et à Salomon. Et voilà, Achaz, évidemment, comme tous les hommes, un jour, il meurt. Achaz mourut. Et le peuple, quand même, avait bien senti que c'était un mauvais roi, qu'il est un mauvais exemple. La preuve, c'est qu'on ne l'a pas enterré à Achaz, on ne sait plus. Il n'a pas été enterré. Et quand on sait ce que c'est pour les Juifs l'enseignement d'un corps, c'est quelque chose. On l'a pas enterré dans le sépulcre des rois. Et voilà, son fils se lève pour régner. Et quel âge a-t-il quand il commença de régner, si cela n'est pas dit dans le chapitre 18 des rois, alors vous allez où? Dans les chroniques. Et dans les chroniques, c'est le chapitre 29. Hein. Et alors, ce que nous n'avons pas comme renseignement dans le livre des rois, on l'a peut-être dans les chroniques. Et nous apprenons justement qu'une des premières choses que Ézéchias dit, la première année de son règne, verset 3, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répare. Et forcément, si on avait fermé les portes de la maison de l'Éternel, est-ce qu'il y avait encore des sacrificateurs? Non. On avait renvoyé tous les sacrificateurs. De sorte que Ézéchias a fait revenir les sacrificateurs qui étaient au chômage et qui n'avaient plus d'office à remplir. Et il les a exhortés à revenir au Seigneur et il a dénoncé le péché de ses pères qui avaient fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Alors, ce qui caractérise Ézéchias, qui régna 29 ans à Jérusalem et il avait quel âge? 25 ans. C'était donc un jeune homme de 25 ans lorsqu'il devint roi. Il règne à 29 ans. Et que savons-nous? On sait des choses qui sont faites, des sacrifices et qui sont vraiment plus édifiants. Mais il est dit au verset 2 de ce chapitre 18 du deuxième livre des rois que le nom de sa mère elle s'appelait Abby. Elle était fille de Zachar. Et on pense que c'est l'influence vraiment de sa mère, c'était pourtant la femme, la sage. On peut avoir un mauvais mari, on peut avoir un mari qui n'a pas la crainte du Seigneur, mais sa femme, elle est restée dans la crainte du Seigneur. Et il a pu avoir l'influence de sa mère. Mais il y a en tout cas une chose qu'il était quand même contraint de faire, Ézéchias, puisqu'il devait devenir roi, qu'est-ce qu'il devait lire? Il devait lire la loi de Moïse. Et qu'est-ce qu'il devait faire de cette loi? Une copie. Une copie. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui a pu changer le cœur d'Ézéchias? Qu'est-ce qui a pu le transformer? Alors qu'il aurait pu suivre l'exemple de son père, il y a la parole qui s'est mise entre lui et son père. Alors, c'est cela qui doit nous diriger. La parole vient entre vous et vos parents charnels. Et qu'est-ce que vous suivrez alors? La parole. Voilà. Et il est dit au verset 3, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il y a un mot que j'aime beaucoup, il l'a fit entièrement. Entièrement. D'une façon absolue. C'est donc Dan disait que les jeunes veulent maintenant l'absolu. On ne peut pas être à moi. C'est ou l'un ou l'autre. Froid ou bouillant. Mais ça, c'est. Il dit d'une façon entière la volonté du Seigneur. Il dit ses droits aux yeux de l'Éternel entièrement. Comme avait fait David, c'est-à-dire en face par-dessus Achaz et les autres rois. Et on arrive directement à David. Et de David, on le pense au bien qu'il a fait. David a eu des manquements, a eu des fautes graves. Mais ce qu'on peut dire de lui, c'est que son cœur était quand même attaché. David aimait le Seigneur. Il aimait les choses. On nous en a lu, n'est pas, je t'aimerai au Seigneur. David aimait le Seigneur. Comme l'apôtre Pierre, qui a eu tous les manquements possibles, mais qui pouvait dire, Seigneur, mais en tout cas, une chose, malgré tout ce que je fais, que je puisse en discerner ici en vous. d'amour pour le Et alors, parce qu'il voulait suivre le Seigneur, verset 4, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. C'est ce qu'il faisait au fond. Il décidait que le de son cœur, il l'a décidé de son cœur. Il mit en pièce le serpent d'airain. Figurez-vous que le serpent d'airain qui avait été fait partie par Moïse et désert, eh bien, les Israélites en avaient fait au fond une espèce de relique. Et à ce serpent d'airain, à ce serpent métallique, ils offraient de l'encens. Donc, le serpent d'airain était devenu une idole. Alors, c'est quelque chose qui a été pourtant employé par Dieu devient une idole, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est fille. Et il l'a détruit. C'est pourquoi le culte des reliques et tout ça, il faut faire très attention à ça. Là, vous avez la condamnation du culte des reliques. Parce que si vous attachez de l'importance à des eaux ou quelque chose, eh bien, vous tombez dans l'idolâtrie. C'est pas des eaux que j'adore, c'est le Seigneur. Et si toujours on aime appartenir à des serviteurs de Dieu, parce que vous savez aussi, c'est ça on se base pour le culte des reliques, sur les eaux de Christ. Les eaux d'Élysée, parce que Élysée, le prophète, l'homme de Dieu, on l'avait enseigné dans un tombeau, et puis pendant une guerre, on n'avait pas le temps d'enterrer les morts, et on devait fuir, alors on a jeté le cadavre d'un homme dans le tombeau d'Élysée. Et le cadavre a poussé les eaux d'Élysée, et à ce moment-là, le cadavre a repris. Alors, c'est comme ça qu'on justifie le culte des reliques. Mais c'est un grand danger. Et ce qui était une fois pour Élysée, eh bien, ça ne peut pas en réaliser. De sorte que c'est un sas qui est assez particulier. Mais le Seigneur ne veut pas que nous adorions des choses. Il veut que nous adorions le Père en esprit et en esprit. Et il faut se débarrasser de toutes ces choses qui ne sont pas bibliques, qui ont été ajoutées au cours des siècles, et qui sont pour bien des prêtres de connaître un grand sujet de défense. Et il voudrait se débarrasser de tout cela. Purifier l'Église, purifier les cultes de toute cette idolâtrie, de tout ce paganisme. Parce que c'est eux-mêmes qui parlent qu'il y a du paganisme. Mais nous aussi, dans notre culte, en quelque sorte, de certains noms d'hommes de Dieu qui ont été employés dans le réveil, nous devenons aussi des espèces de sagesse. On se réclame davantage d'un homme que du Seigneur lui-même. Et des traditions qui viennent en quelque sorte de cet homme qui a été un instrument de Dieu pour fonder les communautés, mais maintenant on parle toujours de cet homme et on réclame du nom de cet homme. Que le Seigneur nous garde de cela et que nous puissions le réclamer seulement du Seigneur. Donc, il y a une leçon à prendre dans ce que j'ai fait ainsi. Il a même décrit le serpent d'airain fait par Moïse. Car les enfants d'Israël avaient jusque-là brûlé des parfums devant lui et l'appelaient l'Égyptien. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, vous voyez qu'on rejoint les proverbes, hein, parce qu'il avait certainement eu les proverbes Salomon où il est parlé qu'il faut mettre notre confiance en l'Éternel. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point d'un semblable à lui. C'est un beau témoignage. Il fut attaché à l'Éternel. Est-ce que vous êtes attaché au Seigneur? Et j'étais attaché. Il ne se détourna point de lui. Est-ce que nous voulons vraiment le suivre? Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à qui? À Moïse. Donc, on voit qu'il n'avait pas seulement fait une copie de la loi de Moïse, mais en copiant cette loi, comme le roi, il avait décidé dans son cœur qu'il mettrait en pratique cette parole. Et que lisons-nous encore à ce sujet, verset 7, et l'Éternel qui servit, quand on veut vraiment suivre le Seigneur, il dit, avec lui, c'est bon, même son Seigneur. Pourquoi le règne d'Ézéchiel a été béni? C'est parce qu'il a voulu revenir à la fin. Il a voulu revenir à la fidélité, à la parole de Dieu. Et quand l'Église revient à la parole, il y a toujours une bénédiction. Et on peut même dire que l'effort qu'a essayé de faire Jean 23 par le concile de Vatican II avait apporté, même dans cet Église romaine, un renouveau spirituel remarquable. Et l'atmosphère a changé dans bien des pays, quand même, et nous devons cela à cet ardonimento, comme on l'a appelé, qui a été provoqué par Jean 23, qui sous une inspiration de l'esprit désirait réellement que l'Église. Et il a demandé pardon ouvertement pour toutes les persécutions que l'Église a faites aux protestants et aux évangéliques. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas enlever de l'histoire. Il y a eu quand même un homme qui a osé faire cela. Et ce n'était pas rien. On a raconté qu'on avait fait tout ça. C'est pas mort de mort naturelle. Parce que si on est un pape même, on peut être pape, on est un homme. Et Dieu a dit que vous allez prier pour tous les hommes. Ça vous arrive de prier pour le pape? Je l'espère. Parce qu'il faut prier pour les hommes. Le pape est-il un homme? Même si vous le voyez souvent en robe, c'est un homme. Ça, il ne faut même pas être stupide. C'est un homme. Alors priez pour tous les hommes. Et nous devons espérer pour tous les hommes. Nous devons espérer du bien dans tous les hommes. Dieu pourrait nous étonner drôlement. Parce que si lui le veut, parce que c'est grâce. Si vous êtes sauvé, si vous, vous avez compris quelque chose, c'est à cause de lui. Si vous êtes intelligent, parce que vous êtes bon, parce que vous êtes désirable, pas vrai. Parce que Dieu vous a aimé. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aimerait pas aussi les hommes qui ont des hautes responsabilités dans les églises et dans le monde? Il a choisi un païen pour provoquer un réveil. C'était qui? Cyrus, en son temps. C'était un païen. Et il a accompli sa volonté par un païen. Je trouve que le Seigneur pourrait encore nous étonner. Si vous ne voulez pas mettre tout votre cœur au Seigneur, parce qu'il pourrait faire cela avec vous, s'il trouve parmi nous, et ça, ça m'humilie moi-même, mais s'il peut trouver un homme dont le cœur serait entier et son partage pour lui, au lieu d'être partagé, eh bien, le Seigneur l'emploiera. Regardez, il a fait dans un temps pareil, après le règne d'Achaz, avec Ézéchias, eh bien, il l'a béni, il réussit. Vous ne voudriez pas réussir? Vous ne voudriez pas réussir? Il réussit. Il réussit dans tout ce qu'ils ont pratiqué. Il réussit. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus à ses outils. C'est une vraie libération. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, il ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'au Villefort. Et alors, quand il a été débarrassé de ses ennemis de l'extérieur, il a eu à cœur de mettre vraiment de l'ordre dans le temple. Il a fait ouvrir les portes du temple et purifier le temple qui y avait été mis. Les sacrificateurs ont mis 10 jours à faire le nettoyage et la purification du temple. Eh bien, c'est en ce temps-là que ce proverbe qui nous occupe maintenant a été mis en ordre. Par les gens d'Ézéchias, qui était parmi les gens d'Ézéchias? Citez-moi au moins un homme qui avait une grande influence au jour de l'histoire. quel homme vivait du sang des esclaves. Un des plus grands prophètes, non pas par la puissance, mais par les écrits, il a écrit, il a fait, Ésaïe. Ésaïe, qui était le prophète qui vivait au temps d'Ézéchias et qui fut envoyé vers Ézéchias quand celui-ci, jeune encore, tombe malade et reçoit à ses portes, donne des ordres à la maison, car il va mourir. Alors Ézéchias se tourne contre la muraille et prie et demande au Seigneur grâce. Et Ésaïe revient et lui dit, l'Éternel a entendu ta prière, il a vu tes larmes, et il te dit, j'habiterai encore 15 années à tes jours. Et vous avez au chapitre 38 d'Ésaïe, et dans d'autres passages du roi et du chronique, dans cette action de grâce d'Ézéchias, apprenant qu'il pouvait guérir. Et il a été guéri. Par quel moyen? Il avait un ulcère, il devait l'emporter. Et qu'est-ce que Ésaïe a dit qu'il fallait faire pour cette guérison? Un emplâtre de. Donc, le Seigneur peut employer aussi certains éléments comme médecine. C'était pas nécessaire de faire un emplâtre de figure, il aurait pu faire une imposition des mains ou dire une parole, mais là, eh bien, il est guéri par un moyen qui est en quelque sorte un remède, un médicament ou un emplâtre, un traitement, disons. Donc, on peut penser qu'Ésaïe a eu un rôle aussi dans ce recueil que nous lisons maintenant, et qui a été fait par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Et Ésaïe était une de ces personnes. Il y en avait d'autres, et Gatine et d'autres encore. La gloire de Dieu, c'est de casser les choses. Les choses cassées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et s'il y a des choses qui sont cassées, qui appartiennent à Dieu, elles sont cassées pourquoi? Pour nous donner l'envie de les découvrir, de les connaître. Et alors, eh bien, la gloire vraiment d'un roi, c'est de chercher que Dieu a voulu casser, a voulu dire. Il y a des choses qui sont cassées, mais si un roi d'Israël ou un roi de Juda est intéressé par ce que Dieu a cassé, eh bien, il sera occupé de quoi? De cette recherche. Et quand on est occupé de rechercher les pensées du Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? On les trouve. Si on a la crainte du Seigneur, on l'a vu dans le chapitre 2, c'est tout le chapitre 2, quand vous cherchez, vous êtes dans la crainte du Seigneur. Et c'est ça la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Qu'est-ce que tu as voulu dire, Seigneur, dans tel domaine? Quelle est ta pensée ici? Si un roi recherche la pensée du Seigneur, il sera le bien. Si Hitler avait cherché la pensée du Seigneur, croyez-vous qu'il aurait fait les fours crématoires et les chambres à gaz? Non. Mais un roi qui recherche la pensée du Seigneur pour diriger son peuple, il fera du bien à son peuple. La gloire des rois, la vraie gloire des rois, c'est pas de prendre des villes, c'est pas de massacrer les gens. La gloire des rois, c'est de connaître ce que Dieu pense et d'être dans sa main pour faire sa volonté. Le cœur des rois, avons-nous lu, est dans la main de Dieu comme des ruisseaux d'eau. Il les incline où il veut. C'est ça la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Et vraiment, on peut dire que Salomon, au début de son ministère, a cherché à sonder les profondeurs de Dieu. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, le cœur des rois sont impénétrables. Plus un roi recherche la pensée du Seigneur,
plus il vit avec le Seigneur, plus aussi ses pensées sont impénétrables pour le peuple. Le peuple ne comprend pas. Et pourquoi est-ce que ce roi fait ceci? Pourquoi est-ce que ce roi fait cela? Mais peu importe si le peuple ne comprend pas, du moment qu'il est béni. Du moment que les choses vont bien, on ne comprend pas toujours les motifs du roi. Mais ce qui compte, c'est que le peuple soit béni. Et c'est ce qui arrive. Moi, je ne comprends pas tout pourquoi des pensées de Dieu à mon égard, mais je sais qu'il veut mon bien. Et ça me suffit. Ça me suffit. Alors, plus un roi est dans la communion de Dieu, eh bien, plus il ressemble à Dieu lui-même. Verset 4. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. On a parlé du creuset qui est pour l'or, le fourneau aussi pour l'argent, et le creuset, donc, purifie l'argent. Si on enlève les scories, les matières impures, eh bien, de l'argent, l'argent est plus pur, et alors il en sort un vase pour le fondeur. Et nous devons, nous aussi, devenir des vases qui soient à la gloire du Seigneur, des vases purs. Vous retrouvez cette notion du vase dans quel épître de Paul? Oui, au Corinthiens, et à Timothée en particulier. Deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2. Être un vase d'honneur pour le Seigneur. Mais pour cela, il faut que les scories soient purifiées. Et pour que les scories soient enlevées de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Le creuset, il faut les prendre. De sorte que si vous voulez grandir dans le Seigneur, vous devez accepter les épreuves. Est-ce que c'est accepté dans vos vies? Est-ce que vous acceptez que Dieu vous façonne lui-même à son image. Bien, vous passerez par le creuset. Ôte les maisons de devant toi et son trône, le trône du roi, s'affermira par la justice. C'est bien compréhensible parce que quand les maisons sont là, dans un pays, eh bien, ils fomentent toute espèce de mauvaises choses, des révoltes, des persécutions. Mais quand les naissances sont mises de côté, eh bien, le trône s'affermit par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Ça veut dire quoi, ça? Nous ne devons pas nous élever par nous-mêmes. Si le Seigneur nous élève, c'est autre chose. Mais vouloir briguer un poste, c'est une ambition que l'on a dans notre cœur pour grandir, pour avoir un nom dans ce monde. Est-ce que vous avez encore cette ambition? Celui qui avait le nom au-dessus de tout nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé lui-même. Il a quitté cette gloire. Ce qu'il n'avait pas ravi, c'est-à-dire l'égalité avec Dieu, il l'a rendu. Et il est venu sur la terre comme s'il était un saint homme. Il n'est pas venu avec des grands titres, il ne s'est pas imposé avec des titres. Il s'appelait tout simplement le Fils de l'homme. Il ne s'appelait pas même le Fils de Dieu. Il l'a dit à une ou deux âmes, parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais il ne s'est pas imposé comme Fils de Dieu, il s'est imposé comme Fils de l'homme. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, vous voyez, ne t'élève pas devant le roi. Ne prends pas la place des grands. Jésus n'a pas pris la place des grands. Il ne s'est pas élevé devant le roi des rois. Il était humble et doux. Il est né dans une crèche. Car il vaut mieux qu'on te dise « mon Titi ». Et ça lui est arrivé au Seigneur. Quand il a eu accompli toute son œuvre, le Père lui a dit « mon Titi ». Et aux yeux de ses disciples, il est retourné dans cette gloire d'où il était venu dans sa résurrection. Il vaut mieux qu'on te dise, mon Titi, que si l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux voient. Là, vous retrouvez exactement le message de Jésus dans le chapitre 14 de Luc. Il donne ses leçons, mais réellement, Jésus a vécu les proverbes. Et il a enseigné, en quelque sorte, la doctrine des proverbes dans ce souper où il était invité, c'est le pharisien. Il a justement dit, quand tu es invité, ne prends pas la première place, parce qu'il ne sait pas si celui qui t'invite l'avait réservé, parce que ce serait humiliant pour toi qu'on te dise c'est la place de Monsieur X ou d'un autre, hein, et puis toi, descends plus bas. Vous voyez, la tendresse du Seigneur, la délicatesse du Seigneur, il ne veut pas que vous soyez humiliés. Mais humiliez-vous, soyez humble et vous ne serez pas humiliés. Si vous n'êtes pas humble, puisque vous demandez l'humilité, qu'est-ce qui vous arrive? Des humiliations. Mais si vous étiez humble, vous n'auriez pas besoin d'être humilié. Et pourquoi est-ce que nous sommes humiliés? C'est parce que le Seigneur voit dans notre cœur de l'orgueil. Alors il résiste. Comprenez bien le sens des proverbes. Et voyez toujours Jésus. Alors vous avez de la lumière sur ces textes. C'est le chapitre 14. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire. Pourquoi? Il y a des gens qui aiment les contestations. Quelqu'un dit quelque chose, ah non, moi, je dois tout de suite m'opposer, dire quelque chose de contraire. C'est pas nécessaire. Est-ce que cette discussion sera valable? Tu entends des choses, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est peut-être pas nécessaire que je conteste. Ça n'a pas grande importance ce qu'il est en train de dire. Ça ne touche pas des vérités fondamentales, je l'aime. Parce que je pense pas en contestant. Je veux dépendre du Seigneur. Seigneur, veux-tu que je dise quelque chose? Ou bien, est-ce que, moi, j'ai le tempérament bagarreur. Tiens, et il a dit ceci, eh bien, moi, je veux dire autre chose. Au nom du Seigneur, soi-disant. Si on conteste, puis, on se bagarre. Puis les gens nous écoutent. Mais c'est ça, les chrétiens? Ils sont pas capables d'être d'accord? Chacun vient avec sa théologie? Laissez la théologie de côté. Voyez la personne du Seigneur. Ne te hâte pas d'entrer en contestation. Vous voyez comme ça peut nous aider. De peur qu'à la fin, tu ne saches que faire, parce que des fois, les autres sont plus forts que nous. Tu n'en as pas le dernier mot. Et moi, c'est pas intéressant que j'ai le dernier mot. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur ait le dernier mot. Sur le tout. Lorsque ton prochain t'aura outragé, on pourrait être humilié. Défaut ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Voilà quelqu'un qui m'a attaqué. Eh bien, oui, j'ai le droit de défendre ma cause contre mon prochain, mais je n'emploierai pas des moyens qui ne sont pas honnêtes, pas purs. Je sais quelque chose qui pourrait faire du tort à ce prochain qui m'attaque, et je vais y sortir cette chose-là, une saleté, pour le mettre dans une situation difficile. C'est pas notre manière de faire. Seigneur ne veut pas ça de nous. On nous avait confié un secret quand on était encore en bonne relation, et puis ce secret-là, parce que maintenant on a une difficulté, ben on va le révéler pour lui faire du tort. Non. Je pourrais faire du tort à mon prochain. Mais je ne révélerai pas ce que je fais. Je ne révélerai pas ce que je fais pour gagner mon procès. Si procès il y a, j'espère bien que vous ne le faites pas. Parce que lui, si on commence à employer ces moyens qui ne sont pas nets, qui sont en quelque sorte des trahisons, quand on était amis, on m'a confié quelque chose. On était amis. On était amis à la vie, à la mort. Puis voilà pourtant. Au cours de l'existence, il y a tout à coup une dispute. Et on ne sait pas pourquoi, ça ne s'arrange pas, et on devient des ennemis. Et alors, dans le temps où on est ennemis, j'emploie quelque chose que je sais pour faire du tort à mon prochain. C'est pas loyal. C'est pas loyal de trahir les années d'amitié qui nous liaient. Parce que maintenant, on a une difficulté. Parce que lui, si je fais ainsi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver quelque chose aussi contre moi. Et la guerre, elle ne finira pas. C'est là qu'il faut faire la guerre avec prudence. Car j'ai peur qu'en apprenant les moyens que tu emploies, au fond, il ne se couvre de honte. Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Voyez-vous, nous devons abandonner certaines choses. Mon père disait toujours, tu m'as retiré des débats du peuple. Nous n'avons pas à nous débattre. C'est un psaume 18 qui nous dit cela. Alors verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Vous pourriez maintenant, que vous avez un peu connaissance des proverbes, prendre une feuille blanche et mettre les paroles qui peuvent vous servir et qui, que vous pourrez donner avec à propos dans tel ou tel cas, les apprendre même par cœur, et puis dans la dépendance du Seigneur, donner une parole à propos. Mais une parole donc, une parole à propos, c'est une parole qui correspond aux besoins. C'est une parole de grâce, assaisonnée de sel. C'est une parole qui édifie, c'est une parole qui construit l'âme, c'est une parole qui la fortifie, c'est une parole qui la console. Vous devez avoir des paroles à propos de consolation, des paroles à propos d'exhortation qui stimulent dans une certaine voie. Et puis, aller plus loin. Ces paroles à propos, vous comprenez ce que ça veut dire. Eh bien, ayez un bon panier de pommes. Les pommes d'or. Aucune ne pourrira. Et comme un anneau d'or est une parure d'or fin, ainsi est pour une oreille docile, ainsi est pour une oreille docile le sage qui réprimande. Le sage. C'est lourd, hein, de porter un sage comme boucle d'oreille. Qu'est-ce que vous avez comme boucle d'oreille? Ça représente un sage? Quelqu'un qui vous a réprimandé, une boucle d'oreille pour vous? Vous êtes heureux que quelqu'un vous ait réprimandé, que quelqu'un vous ait fait peut-être une remarque, peut-être pas très agréable à entendre. Il y en a personne qui m'a fait cette remarque parce qu'elle avait le droit de le faire, parce qu'elle m'aimait justement, parce qu'elle voulait que je fasse les choses bien. Est-ce que vous portez cette personne comme une boucle d'oreille? Comme un ornement? C'est ça qu'on doit comprendre. Les personnes qui m'ont le plus aidé, ce sont celles qui ont pu aussi me reprendre. Ce sont mes boucles d'oreilles. Verset 13. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle. Pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Faut vous dire que ce temps-là, il n'y avait pas des avions pour distribuer les courriers. Quand on voulait envoyer un message, fallait le confier à qui? À plus relator? Vous voulez pas le confier au poste? Je ne veux pas offenser notre service. Il n'y avait pas tout cela. Alors, il fallait trouver quelqu'un qui soit fidèle, à qui tu puisses confier un message, c'est clair, ce message, pour l'apporter c'est bien loin. Vous vous rendez compte qu'il fallait ce temps-là. Alors, quand on avait vraiment trouvé un message fidèle, c'était vraiment une consolation, c'était comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, c'était un vrai rafraîchissement. Ainsi, elle est messager fidèle pour celui qui l'envoie, parce que le message partait par quelqu'un que j'avais choisi, hein? Sachant qu'il serait fidèle, eh bien, ça resterait l'âme du maître qui l'envoyait. Verset 14. Comme les nuages et les vents s'enfuient, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. C'est très facile, n'est-ce pas, de dire qu'on a fait du bien, qu'on a été très libéral en ceci, en cela. Puis souvent, on exagère. Donc, ne parlez pas. Quel est l'enseignement du Seigneur quand vous donnez quelque chose? Vous voyez, je voudrais vous faire revenir à l'évangile par ce texte. Matthieu, chapitre 6. Que ta main droite ne sache pas qu'a fait ta main gauche. Hein? Ben, c'est ça ici. C'est le même enseignement. Ta main droite, si tu as donné, ne doit pas savoir qu'a fait ta main gauche. Et ici, il est dit, comme des nuages, c'est une autre image, et du vent sans pluie, ainsi est l'homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Quand tu fais l'aumône, ne le dis pas. C'est pas nécessaire même que la personne sache que c'est toi tu as donné. Ce qui compte, c'est que tu saches que Dieu te dit de donner à cette personne. Que cette personne reçoit la chose de Dieu. Et donne gloire à Dieu. Elle ne se fait pas qui a donné. On est en plein évangile. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. J'aime beaucoup ce verset. Au lieu d'être colérique, est-ce que vous allez fléchir un prince en étant colérique, en essayant d'imposer votre pensée? Non. Et qu'est-ce qui peut briser les os? Une barre de fer? Non. Quelque chose de molle comme la langue. C'est molle, hein, la langue. Vous m'avez brisé vos os avec ma langue. C'est le seul moyen, hein. Employez votre langue. Pas pour médire, mais pour briser les os. Qu'est-ce qui peut briser les os? La langue. C'est fantastique, hein. On est bien loin de ce qu'on conçoit. La langue douce. Brise les os. Une parole douce. Elle peut briser les os les plus doux. Souvenez-vous de ça. Avec votre langue, vous pouvez faire un drôle de travail. Vous pouvez briser les os. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ces proverbes? Il y a de la nourriture. Vous pouvez méditer longuement là-dessus. La langue douce brise les os. Employez votre langue comme il faut. Dans la douceur. Si tu trouves du miel, non mange, qu'est-ce qu'il te suffit? De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomis. Alors, c'est pourquoi, n'est-ce pas, Jocelyn, tu seras d'accord, que on peut pas tellement prendre le miel comme image du Seigneur. On peut prendre le miel comme image d'une certaine douceur. Mais la douceur de Christ, c'est pas simplement du miel. Parce qu'il y a des gens qui sont drôlement mielleux et qui sont perfides. Alors, attention, hein, le miel est bon, mais il faut veiller à ne pas prendre. Alors, ça peut pas être le Seigneur, ça. Parce que le Seigneur, je suis toujours en désirer davantage. Puis après, vous avez le verset 17. Mets rarement le pied dans la maison de son prochain. De peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Vous savez, mes amis, je voudrais vous mettre en garde. Quand on est jeune converti, on aime bien d'autres personnes qui sont converties aussi. Et puis, quelquefois, on devient tellement amis qu'on est toujours collés les uns sur les autres. Alors, ça va un moment, hein. Et puis, au bout d'un certain temps, on est tannés. Par ce cher frère, et cette chère sœur, qui ne nous laisse plus tranquille, qui est toujours là. Mais, on est frère et sœur en Christ, on est heureux. Ne va pas trop chez ton voisin, chez ton prochain. Mais mon prochain, c'est mon frère en Christ. Il va toujours être là pour me recevoir. Non. Vous pouvez faire autrement. Il vaut mieux vous faire désirer que de devenir un indésirable. Vous êtes d'accord, hein? C'est vrai. Parce que même que vous êtes au Seigneur, quand les enfants spirituels viennent de naître, on s'occupe d'eux, forcément. Mais il y a un moment donné, ils doivent grandir et puis aller plus loin, eux. Nous, on aura d'autres personnes dont on s'occupera. Mais on ne peut pas toujours recevoir les mêmes gens. Alors, il y a du passage. Alors, on se donne le plus possible, mais non pas pour les garder pour soi, mais pour qu'ils aillent plus loin. Alors, souvenez-vous de cette parole, hein. Mets rarement le pied dans la maison de ton voisin, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Je dirais, non, comment est-ce qu'on peut être rassasié de moi? Je suis un enfant de Dieu. Vous croyez qu'un enfant de Dieu n'est pas encore fait de chair? On peut vite être rassasié de moi. Même de moi, enfant de Dieu. Alors, comme une massue, comme une épée, comme une fessée, vous voyez trois images pour montrer un homme qui rend un faux témoignage contre son prochain. Alors, ne soyez pas un pharmacie ou une sœur épée ou une flèche aiguë. Voilà ce qu'on peut être. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Il est identifié à une massue, à une flèche, c'est des instruments de mort. On est instrument de mort. Comme une dent cassée est un pied qui chancelle. Ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ne mettez pas votre confiance en quelqu'un qui est tordu. Ôtez son vêtement dans un jour de froid, répandez du vinaigre sur le mitre, c'est-à-dire des chansons à un cœur affligé. Voilà, vous êtes, j'ai souvent donné cet exemple, vous êtes devant quelqu'un qui est dans une grande détresse, ou qui est dans une épreuve. Alors vous avez une parole à propos pour cette personne. Qu'est-ce que vous lui direz? La personne est dans la souffrance, à ce moment-là. Qu'est-ce que vous lui direz? Elle est presque révoltée, elle ne comprend pas. Eh bien, chère sœur, cher frère, celui que le Seigneur aime, il le discipline. Hein? Ça vous fait une réaction violente, comme du vinaigre sur des mitres, n'est-ce pas? Vous provoquez cela. J'ai vécu cela à Lausanne, d'un cher pasteur qui allait de lit en lit dans l'hôpital. Il y avait une femme, on lui avait fait une dérivation intestinale, elle souffrait terriblement, c'était il y a 30 ans de cela, hein. Alors, c'était pas encore les méthodes comme on fait aujourd'hui. Elle souffrait horriblement, et puis elle gagnait un peu. Alors le pasteur, croyant qu'il devait donner une parole à tout le monde, va vers cette personne, et puis il dit, alors madame, vous souffrez beaucoup, elle prend une voix très onctueuse, puis elle lui dit, ça tu vois. Eh bien madame, celui que le Seigneur aime, il le discipline. Alors elle lui a répondu, bien je voudrais qu'il vous aime un peu plus, et qu'il m'aime un peu moins. C'est le vilain sur le mitre. Voilà un exemple des proverbes. Comme du vilain sur le mitre, une petite réaction chimique. Au contraire, comme du vilain, quel est celui qui chante une chanson à un cœur affligé? J'avais 18 ans, j'avais à côté de moi un homme qui était venu avec ses deux hommes, puis on avait dû lui couper d'abord, parce qu'il était longtemps à l'hôpital, un pied, puis après le genou, puis après on l'avait enlevé ici, puis après on avait dû commencer à l'autre jambe, de sorte qu'il avait plus que deux petits moignons. Il était venu, il avait 65 ans, il était venu avec ses deux jambes, et puis il pensait se voir partir sans jambes, hein, parce qu'il avait fait quand même un temps. C'était un catholique qui avait chanté les 100 coups, mais il avait été mis à côté de moi, et puis j'ai pu lui parler, il s'est converti, c'était quelque chose de merveilleux. Mais je me souviens toujours qu'un frère qui était venu me visiter, moi, et me dire de bonnes paroles, et il me dit, qui est cet homme? Alors, je disais, c'est un homme qui n'a plus de jambes, et le Seigneur a fait une œuvre dans son cœur. Oh ben, j'allais lui parler, alors il dit, va voir cet homme. J'ai regretté. Alors, ce brave homme, avec son habit de pasteur, vient. Eh bien, monsieur, alors, il y a longtemps que j'ai dit, il lui raconte un petit peu, on l'appelait le père Tito. Et puis, elle lui dit, eh bien, évidemment, c'est dur, je pense. Alors, le pauvre père Tito dit, ben, vous savez, quand on est venu avec deux jambes, puis qu'on va repartir sans jambes, c'est pas bon. Eh bien, mon cher ami, réjouissez-vous, vous aurez bientôt les jambes du ciel. Amen. Vous aurez bientôt les jambes du ciel. Hein? Quel est celui qui chante des chansons à un cœur affligé? Il ne s'est pas mis dans la peau du bonhomme. Alors vous faites du mal avec la Bible. Vous visitez les gens avec vos textes bibliques. Alors faites attention à la manière dont vous citez les Écritures. Voilà ce que ça veut dire ici. Quel est celui qui chante des chansons à un cœur affligé? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voilà une façon d'évangéliser. C'est justement ton ennemi, c'est une occasion de lui prouver que tu l'aimes quand même. Ça fait du tort, mais tu sais qu'il est dans le besoin, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Souvenez-vous de Victor Hugo, donne-lui tout de même à boire. Hein? À cet homme qui est mourant, et qui a essayé de tirer dessus. Donne-lui tout de même à boire, lui dit mon père, Victor Hugo. Connais-tu ce poésie de Victor Hugo, Mon père, c'est rouge, rouge, qui dit. Il dit d'un seul histoire, qu'il est né sans petit, etc. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car, ce sont des sardons ardents. Des sardons ardents qu'il amasse sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous l'avez compris? L'apôtre Paul a cité ce verset, il a cité ce passage dans les Romains, au chapitre 12, pour nous montrer comment nous devons agir vis-à-vis de nos ennemis. C'est une façon de lui parler. En lui faisant du bien, eh bien, sa conscience va commencer à brûler. Et il va se demander, mais est-ce que j'ai été juste à l'égard de cet homme? C'est comme ça qu'on gagne les âmes. En faisant du bien. Je riposte par l'amour. On vous a fait du tort? Cherchez l'occasion de vous venger, mais comment? Par l'amour. Le vent du nord enfonce la pluie, la langue mystérieuse, un visage irrité, pas de problème là. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. On a déjà vu et on verra ça encore plus tard. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, vous l'avez vécu ça aussi. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi le juste qui chancelle devant le méchant, nous voulons nous tenir là. Et là encore, dont Vidal disait quelque chose, on a expliqué les bénédictins, les religieux d'un certain pays, mais malgré tout, ils sont restés debout, et ils sont encore debout pour offrir, après 14 siècles, l'hospitalité comme le Seigneur le désirait. Ils sont encore debout. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, on revient sur le même texte, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Là, vous comprenez ce que ça veut dire manger beaucoup de miel. Alors, quand on mange beaucoup de miel, on devient doux, on devient très doux, puis on a des paroles mielleuses. Mais c'est pas ça qui compte. Parce que bien souvent, on recherche notre gloire. Il faut rechercher la gloire des autres. Est-ce que ça vous plaît? Rechercher? Qu'est-ce que vous recherchez? Votre gloire et la gloire des autres. Qu'est-ce qui nous réjouit? Que les autres soient élevés? Eh bien, que nous soyons élevés. Si on nous recherche la gloire des autres. Rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forte et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc, nous voulons être maître de lui-même. Comment? En laissant le Saint-Esprit agir en nous. C'est lui qui nous donnera cette maîtrise de nous-mêmes. Je vois que ça a pris plus de temps que je ne pensais.
Je mets le fond du cœur, qui est de chacune de nos vies. Nous aimons en ce sens de nous connaître en ce moment, afin que tu nous restaures le futur, que tu continues à nous parler et à labourer nos cœurs et nous préparer pour la fin de ce défi. Nous voulons te remercier que nous pouvons croire que ton esprit va de plus en plus notre mémoire et que les choses que nous avons considérées et étudiées dans la simplicité et dans l'humilité, nous serons vraiment utiles. Que nous voudrions te demander réellement ce soir, en ce qui nous l'a souligné, c'est que nous puissions chercher la gloire des autres, et non plus notre gloire. Que nous nous oublions nous mêmes, comme tu t'es oublié pour nous, pour vivre pour les autres. Les autres ont besoin de nous. Que nous recevions leur gloire et leur bien qui sont. Amen.